Voilà, alors donc on va continuer notre chapitre 5, 4 de la lettre du pape Maurice Laetitia. Vous m'entendez suffisamment? Je parle assez fort, ça va? Sinon, il faut me secouer. Donc là, je vais vous parler rapidement, je vais très rapidement du mariage et virginité. C'est au numéro 158. À 161. Le pape nous dit que la virginité est une manière d'aimer. Comme signe, elle nous rappelle l'urgence du royaume, l'urgence de se mettre au service de l'évangélisation sans réserve. Là, il y a une citation. On l'attribue à Peggy, je crois que c'est, oui, c'est ça. Et alors, je crois qu'il en parle à propos de dévots, mais on peut en parler quelquefois, on pourrait l'attribuer quelquefois, hélas, aux personnes consacrées. Parce qu'ils n'ont pas le courage d'être du monde, ils croient qu'ils sont de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le courage d'être d'un des partis de l'homme, ils croient qu'ils sont du parti de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas de l'homme, ils croient qu'ils sont de Dieu. Parce qu'ils n'aiment personne, ils croient qu'ils aiment Dieu. C'est un peu sévère, hein? Mais je trouve que c'est une bonne une citation qui peut nous secouer un petit peu pour nous dire que l'essentiel, au bout du compte, c'est d'aimer dans notre vie, hein? Donc, si on s'engage dans la voie de la virginité, c'est pas pour avoir un cœur qui se rétrécit. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Mais au niveau du signe, comme en parle le pape, le signe est un peu différent de la vocation à la vie consacrée ou au mariage. Donc, j'aimais bien ce que disait le Raniero Cantalamessa, c'était en 2002, il disait ça quand il parlait au pape. Pour surmonter un peu cette opposition quelquefois qu'on fait entre la virginité et le mariage, c'est de voir que chacune a un service particulier à donner au corps qu'est l'Église. Et alors les personnes consacrées rappellent aux époux le primat de Dieu et de ceux qui ne passent pas. Et en revanche, les époux, les gens mariés, peuvent enseigner aux personnes consacrées dans la virginité, la générosité, l'oubli de soi, expérimenté dans le service de la vie et de la croissance des enfants. Une certaine humanité qui provient du contact direct avec les drames de la vie. Et je crois que ça, c'est vrai qu'on a. Les personnes consacrées ont beaucoup à apprendre des gens mariés. Hein. Je prenais quelquefois l'exemple d'une jeune fille qui voulait être religieuse. Je ne sais pas si elle se serait beaucoup levée la nuit pour prier en étant religieuse. Mais finalement, elle s'est mariée. Mais quand son enfant braillait la nuit, ben elle se levait pour... Et quelque part, dans cette voie, je crois que c'était plus sa voie finalement, ben le bon Dieu l'a stimulée à se donner davantage, à ouvrir davantage son cœur. Ben, c'était beaucoup mieux comme ça. Voilà. Alors voilà ce que dit le pape au numéro 162. Le célibat court le risque d'être une solitude confortable qui donne la liberté de se mouvoir avec autonomie pour changer de lieu, de tâche et de choix, pour disposer de son argent personnel, pour fréquenter des personnes variées selon l'attrait du moment. Alors ça, c'est des célibataires tout court, mais ça peut être, hélas, quelquefois des personnes consacrées. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est une difficulté pour des jeunes couples, quelquefois, quand on a tendance à vouloir le beurre et l'argent du beurre, donc de vouloir les avantages de la vie commune, c'est quand même plus sympathique que de se retrouver tout seul devant son assiette le soir, donc d'avoir quelqu'un, c'est bien, mais en même temps, on voudrait garder son autonomie, et puis voilà. Mais à un certain moment, il faut faire des choix. Mais on a quelquefois du mal à faire le choix de l'un ou de l'autre. Et après, à partir du numéro 163, 163 et 164, le pape parle de la transformation de l'amour. On l'a un tout petit peu évoqué ce matin, mais le fait que entre l'amour que des jeunes amoureux peuvent avoir et l'amour de gens qui ont 60 ans de mariage, c'est pas la même chose, ça évolue. Alors, après, il y en a qui distinguent différentes étapes de diverses manières. Il y en a qui disent, bon, il y a quatre saisons de l'amour. Il y a l'été fusionnel au début, alors voilà. Alors là, on idéalise beaucoup les choses pendant cette période-là. On a du mal à vivre l'un sans l'autre, etc. Bon, ça, c'est l'été fusionnel. Après, il y a le discernement automnal. Alors, je vous lis, ça sera mieux dit que ce que je peux dire. Après le bain de soleil bucolique de l'été, le couple doit faire face à un automne plus morose. Tels les effets d'une drogue qui s'estompe, chacun retrouve progressivement raison et objectivité. La véritable personnalité de l'autre jaillit brutalement, entraînant questionnement et déception. Première dispute, sentiment de frustration, distance, etc. Voilà, alors du coup, après l'été, où on était sous un beau soleil, etc. Bon, voilà. C'est une période de turbulence, mais du coup qui impose justement de pouvoir dialoguer encore et d'apprendre le réalisme. L'autre ne peut jamais nous combler totalement. Mais en ayant toujours à l'esprit aussi que la réalité, c'est mieux que le rêve. Après l'automne, ben c'est l'hiver. Alors, l'hiver, stade de transformation et de silence glacial ou de vent cinglant. Oh là là. Alors, ça, c'est le temps de l'épreuve. Et où alors chacun est amené à se remettre en question lui-même. Et du coup, le couple n'est pas d'abord un refuge où on veut se cacher. Voilà, c'est aussi un lieu où on est stimulé pour changer, pour croître personnellement. Et qu'est-ce qui arrive après le printemps? Après l'hiver, le printemps, bien sûr. Lorsqu'un couple, après de nombreuses années de mariage et d'évolution, entre enfin dans cette phase, il vit une deuxième jeunesse. Voilà, alors les conjoints se connaissent l'un l'autre en profondeur dans leurs failles, leurs défauts, et ne cherchent pas à les combler par le partenaire. Au contraire, chacun voit le couple comme le lieu de croissance commun, dans la clairvoyance et la compréhension de l'un et de l'autre et de ce qu'ils vivent. Alors bon, juste pour souligner ce que dit le pape dans ses numéros 163 et 164, justement, qu'il y a toute une évolution qui est normale qu'on ne peut que désirer dans l'amour des conjoints. Voilà, ça c'était pour terminer un peu rapidement le chapitre 4 de Amoris Laetitia. Maintenant, je vais aborder le chapitre 5. Alors, il y a, voilà, accueillir une nouvelle vie, une fécondité plus grande et la vie dans la famille élargie. Donc, on est numéro 165 et suivant. Alors, accueillir une nouvelle vie, le pape aime bien les enfants, hein. Il aime bien les familles nombreuses. Même s'il rappelle des paroles de Jean-Paul II qui expliquait que la paternité responsable n'est pas une procréation illimitée ou un manque de conscience de ce qui est engagé dans l'éducation des enfants. Donc, il ne dit pas non plus ayez le plus d'enfants possible, Mais il trouve que c'est beau des familles nombreuses. Après, c'est chaque famille qui voit ce qui est possible. Mais dans le numéro 166, il montre les dispositions pour accueillir une nouvelle vie. Je vous cite une des phrases du pape. Le don d'un nouvel enfant que le Seigneur confie à un papa et à une maman commence par l'accueil, continue par la protection tout au long de la vie terrestre et a pour destination finale la joie de la vie éternelle. Donc c'est différentes attitudes, mais là il insiste particulièrement sur l'accueil, la dimension d'accueil, accueillir l'enfant, qu'il se sente accueilli, qu'il soit désiré, même si au point de départ, quelquefois il peut arriver que quand on a déjà un certain nombre d'enfants, ben, ça comporte aussi des sacrifices, etc. Donc l'accueil. Les numéros 168 à 171, ils parlent plutôt de la grossesse. La grossesse est une étape difficile, mais aussi un temps merveilleux. La mère collabore avec Dieu pour que se produise le miracle d'une nouvelle vie. Alors, maintenant, il y a davantage de lieux, je crois, où on aide à bien vivre la grossesse. Parce que la grossesse, c'est pas forcément... il y a les fatigues liées à la grossesse, mais il y a aussi toutes les inquiétudes avec tous les examens qu'on peut faire. Alors aujourd'hui, quelquefois, c'est un peu compliqué de vivre... La grossesse dans la joie, quand aussitôt qu'il y a une petite inquiétude, voilà, les médecins veulent se protéger. Parce que la société est comme ça, et du coup, font plus peur qu'autre chose. Hein, vous connaissez tous Je pense à une amie qui attendait un bébé, c'était son quatrième, je crois. Et puis le médecin, elle avait un médicament contre la phlébite, je crois, à ce moment-là. Il lui dit, d'abord, vous risquez de mourir à l'accouchement, et puis ou avant. Et puis en plus, avec le médicament que vous preniez, il a toute chance d'être handicapé, donc on vous conseille d'avorter, bien sûr. Alors pour eux, c'était pas concevable. Et ils disent ça, en plus, ils le disent au mari, qui avait pas envie de perdre sa femme. Mais qui avait des convictions bien ancrées, donc ils disent, on continue la grossesse. Finalement, elle est toujours vivante, et puis l'enfant était en parfaite santé. Alors, on peut comprendre que les médecins veulent se protéger, etc. Mais du coup, je ne sais pas comment ils ont vécu la grossesse, mais ça ne devait pas être un temps si facile que ça non plus, de voir tous les risques. Alors aujourd'hui, on est encore... Ça peut être encore plus angoissant cette période qu'à certaines périodes. Alors, il y a une dame qui a écrit un livre, Préparation à la naissance, 9 mois avec Dieu. Alors, je ne sais pas si certaines l'ont lu, ce livre. Je sais pas, il y a quelques années, ce livre. Il n'est pas si mémoire. Mais du coup, profiter en quelque sorte de ce temps de grossesse pour vivre une relation particulière avec Dieu, parce que c'est un moment, comme le disait le pape, de collaboration avec Dieu, un moment particulier de collaboration avec Dieu pour donner la vie à un nouvel enfant. Alors il y a des choses qui sont proposées si vous connaissez des gens qui attendent des bébés. Il y a des parcours, notamment avec les petites sœurs des maternités catholiques. Il y a un site préparation spirituelle à la naissance aussi. Voilà. Alors, il y a des choses qui existent pour aider aussi, pour bien vivre ces temps d'attente d'un enfant. Dans le numéro 172, le pape parle du père et de la mère, comme un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Autant le pape est très respectueux et très humain vis-à-vis des personnes homosexuelles, autant il est très carré sur cette question-là. Il dit, ben non, là, on ne peut pas comparer le mariage d'un homme et une femme, une union homosexuelle, ça n'a rien à voir. Il y en a un qui est un cadre porteur pour les enfants, l'autre non. Donc autant il est proche des personnes qui souffrent de leur homosexualité, autant bon, il est clair pour les enfants, le bien des enfants, c'est d'avoir un papa et une maman. Tout enfant a le droit de recevoir l'amour d'une mère et d'un père, tous deux nécessaires pour sa maturation intégrale et harmonieuse. Les parents, alors il rapporte une belle phrase du Concile Vatican II, j'aime bien. Tous deux, hommes et femmes, père et mère, sont les coopérateurs de l'amour du Dieu créateur et comme ses interprètes. J'aime bien ce mot d'interprète. Une œuvre musicale, bon, elle est écrite, mais ça reste un. Tant qu'elle est sur la partition, ce n'est pas la même chose que d'être interprété. Et de dire que les parents sont comme les interprètes de cet amour de Dieu, justement, quand ils s'incarnent dans un petit enfant. Ils montrent à leurs enfants le visage maternel et le visage paternel du Seigneur. Alors, il y avait une interview du père Jean-Marie Petitclerc, que vous connaissez, un salésien de Don Bosco, qui donne trois convictions par rapport au fait que des enfants ont besoin d'un père et d'une mère. La première, c'est que la différence est une source d'enrichissement. Mais nous vivons dans une société qui voudrait gommer toutes les différences. Alors, il y a des différences hommes-femmes, père-mère, adulte-enfant, etc. Mais dans la société, on a du mal. Peut-être d'un certain côté, on est un peu des héritiers de la Révolution ou du. Voilà, toute inégalité, toute différence est interprétée en termes d'inégalité et d'injustice. Alors, c'est vrai que d'une différence, ça peut être un lieu qui favorise l'inégalité et l'injustice, ça c'est vrai, mais pas automatiquement. Alors, c'est vrai que ça demande certainement une vigilance. Mais la différence en tant que telle est importante. La deuxième conviction de Jean-Marie Petitclerc, c'est que l'indispensable combat pour l'égalité des droits ne doit pas entraîner une revendication pour l'égalité de nature. Alors, c'est pas parce qu'on a. Bien sûr que l'homme et la femme doivent avoir des droits équivalents, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pareils. Troisième conviction, on ne peut pas parler de droit à l'enfant. Ce serait prendre le risque de marchandiser ce don qu'est l'enfant, fruit de l'union hétérosexuelle. Méfions-nous de cette tendance à vouloir faire passer le droit à l'enfant avant le droit de l'enfant. Et le premier droit de l'enfant n'est-il pas celui d'avoir un père et une mère? Alors, donc, ça, c'est au numéro 172, où il parle du père et d'une mère. Mais les numéros suivants, il parle plutôt de la mère. Alors, je vais parler un peu de la mère. Aujourd'hui, nous admettons comme très légitime, voire désirable, que les femmes veuillent étudier, travailler, développer leurs capacités et avoir des objectifs personnels. Mais en même temps, nous ne pouvons ignorer le besoin qu'ont les enfants d'une présence maternelle, spécialement au cours des premiers mois de la vie. L'affaiblissement de la présence maternelle avec ses qualités féminines est un risque grave pour notre monde. peu plus loin, numéro 174. En réalité, les mères sont l'antidote le plus fort à la diffusion de l'individualisme égoïste. Ce sont elles qui témoignent de la beauté de la vie. Sans doute une société sans mère serait une société inhumaine. Parce que les mères savent témoigner toujours, même dans les pires moments, de la tendresse, du dévouement, de la force morale. Sur Internet, j'ai retrouvé une... C'est dans Top Féminin. c'est une femme d'un pasteur qui dit pourquoi elle a choisi de rester à la maison. Et j'ai trouvé que c'était assez bien dit. Alors, elle raconte l'entrevue avec son gynécologue. Qui pose les questions d'usage, quel âge avez-vous, situation de famille, c'est votre première grossesse, prenez-vous des médicaments, fumez-vous, avez-vous déjà utilisé des drogues, et quand elle arrive, profession. Ah. Là, j'ai eu un moment d'hésitation. Anège lui dit, annoncer ma brillante carrière de jeune cadre que je venais de laisser, ou ma toute nouvelle carrière, choisie de tout mon cœur, fonder une famille et m'en occuper. Fièrement et posément, je lui répondis « Mère au foyer ». Il s'arrêta net d'écrire, releva le nez de ses papiers et au-dessus de ses lunettes me dévisagea avec une stupéfaction teintée de mépris. « Mère au foyer ?» Il se racla la gorge puis commença à m'expliquer lentement, comme si j'étais une demeurée, quels examens j'aurais à passer, quelles vitamines je devais prendre et quelles précautions quotidiennes mon nouvel état nécessitait. La moutarde commençait à me monter au nez et je compris très vite que ma nouvelle carrière de maman à la maison n'impressionnerait jamais personne. Je faisais désormais partie de cette espèce en voie d'extinction, la maman en plein temps. Et alors, donc elle développe un peu son affaire et voilà, elle dit faire le choix. Et elle, deux difficultés qui se posent en particulier. Financièrement, on n'y arrivera pas. Alors ça peut être vrai. Donc ce que, si je rapporte ça, c'est pas non plus pour culpabiliser qui que ce soit, parce que c'est vrai que quelquefois, ce qui est vrai pour une personne n'est pas forcément vrai pour une autre. Ce qui reste vrai, fondamentalement, c'est que les enfants, comme dit le pape, quand ils sont tout petits, ils ont besoin de leur maman. Après, concrètement, comment le faire, et voilà. Il ne suffit pas non plus d'une présence physique, quelquefois, il y a différentes manières d'être présent, mais voilà, donc mon but, ce n'est pas de culpabiliser qui que ce soit, ou voilà, mais simplement plutôt de dire, mais c'est quelque chose de beau aussi de s'occuper de ses enfants, et de s'en occuper à plein temps, comme cette... Et du coup, bon, je ne vais pas tout vous développer, sinon ça serait un peu trop long. Et puis, il y a la question financière. Et puis après, rester à la maison, c'est sclérosant. Parce que rester à la maison, c'est l'idéal pour les enfants et le mari, mais pas pour la maman. Ce n'est pas toujours très folichon. Le travail de maman à la maison est très ingrat. Elle travaille beaucoup, sans aucune reconnaissance. Les enfants et le mari s'habituent vite au luxe d'avoir une maman qui gère tout et anticipe leurs besoins. Dans une maison, on n'a jamais fini, il n'y a pas d'heure de fermeture des bureaux. Après une journée épuisante de couches-culottes, petits pots, ménage, commission, repassage, on croit avoir fini en s'effondrant sur le sofa à 21h. Mais à peine assise, il y en a un qui se relève avec l'envie de vomir, un pipi-culotte ou une otite. Voilà. Donc... J'aime assez bien la manière dont elle dit les choses parce qu'elle n'enjolive pas non plus. C'est vrai que c'est pas toujours vraiment. Et après, les défis à relever. Alors là aussi, elle prend quelques étapes. Au début, c'est l'euphorie. Voilà, on n'a pas de contraintes horaires, etc. Après, on commence à trouver ça ennuyeux et routinier. Après, on trouve ça que c'est ingrat parce que le travail n'est pas reconnu. Le mari rentre le soir, et s'étonnent de nous voir épuisés, de n'avoir rien fait, entre guillemets. Des enfants plus grands qui salissent là où on a passé du temps à nettoyer, voilà. Donc, autre défi, c'est le renoncement à l'indépendance financière. Mais peut-être plus encore sur la valorisation sociale. Et du coup, c'est vrai que d'avoir un regard de foi aussi sur, sur la mission d'une maman, ça change quand même un peu la manière de percevoir les choses. Dieu nous confie des enfants pour que nous en prenions soin et que nous les élevions du mieux que nous pouvons. Nous avons des valeurs essentielles à leur transmettre. Le pape évoque aussi, c'est souvent la maman dans les premières années qui transmet essentiellement beaucoup de valeurs aux enfants. Et alors maintenant, quand on vous demandera votre profession, ne répondez pas « je reste à la maison » ou « sans profession ». Répondez plutôt en relevant fièrement le menton « je suis investisseur en capital humain ». Donc, investisseur en capital humain. Et c'est très vrai. Encore une fois, il n'y a pas deux personnes pareilles. Je pense que pour certaines femmes, c'est bien de pouvoir travailler au moins un temps partiel. Voilà. Je ne veux pas faire une règle trop générale et mettre trop les choses dans les boîtes. Mais c'est vrai que investir pour le développement des enfants, c'est quand même un bel investissement. Alors ça, c'est pour le côté des mamans. Et après, maintenant, il se situe par rapport au papa, le numéro 176 et 177. On dit que notre société est une société sans père. Dans la culture occidentale, la figure du père serait symboliquement absente, écartée, aurait disparu. Même la virilité semblerait remise en question. Il s'est produit une confusion compréhensible, car dans un premier temps, cela a été perçu comme une libération. Libération du père autoritaire, du père comme représentant de la loi qui s'impose de l'extérieur, du père comme censeur du bonheur de ses enfants et obstacle à l'émancipation et à l'autonomie des jeunes. Parfois, dans certains foyers, régnait autrefois l'autoritarisme, dans certains cas même l'abus. Mais comme c'est souvent le cas, on est passé d'un extrême à l'autre. Le problème de nos jours ne semble plus tant être la présence envahissante des pères que leur absence, leur disparition. Les pères sont parfois si concentrés sur eux-mêmes et sur leur propre travail, et parfois sur leur propre réalisation individuelle, qu'ils en oublient même la famille. Et au numéro 177, d'une manière plus positive, Dieu place le père dans la famille pour que, par les caractéristiques précieuses de sa masculinité, il soit proche de son épouse pour tout partager, les joies et les douleurs, les fatigues et les espérances, et qu'il soit proche de ses enfants dans leur croissance. Dire présent n'est pas la même chose que de dire contrôleur. Il parle de C'est important que le père soit présent. Donc, l'importance du père. Alors, en continuant, toujours avec, comment il s'appelle, je crois que c'était, son nom m'échappe, mais c'est pas grave, ça reviendra, Jean-Marie Petitclerc. Il voyait que les enfants violents, le plus souvent, une caractéristique commune, c'est l'absence du père. Soit il est physiquement absent, soit s'il est présent, il n'est pas jugé crédible à cause de l'alcool ou de l'instabilité. Cette absence de figure paternelle n'est bien souvent pas compensée dans notre société. Et alors là, il dit que souvent, il y a des femmes partout. C'est bien, hein, les femmes. Hein, Mais je rencontre des adolescents élevés par des mères seules qui au collège n'ont que des enseignantes, la figure d'autorité étant Madame la principale, et qui après un délit passe devant le bureau de Madame la juge pour enfants, laquelle confie une mesure de liberté surveillée à Madame l'éducatrice spécialisée, les seuls hommes qu'il rencontre, ce sont les CRS. Alors, il manifeste le besoin de confrontation et les font régulièrement venir dans leur cité en caillassant les forces de l'ordre ou en allumant des feux. On parle beaucoup de parité dans le monde politique, et c'est très bien, mais ne faudrait-il pas parler aussi d'une indispensable parité dans le monde éducatif ? Alors, réflexion sur le rôle complémentaire du père et de la mère. Oh, tu veux passer de l'autre côté, Dominique ? Non ? Bon, ça, j'ai essayé. Pour le garçon comme pour la fille, le manque de père, qu'il soit absent, qu'il ne soit pas assez présent, ou qu'il ne prenne pas ses responsabilités, qu'il reste un éternel adolescent, peut engendrer un manque de confiance en soi, des incertitudes, des absences de repères. Certains auteurs pensent que le manque de père est plus préjudiciable au garçon qu'à la fille, surtout au moment de l'adolescence. On voit que c'est autant la maman est tout à fait essentielle dans les premières années, autant le papa au moment de l'adolescence a un rôle incontournable. Alors là, je ne sais plus très bien où j'ai pris ça, mais je pourrais le retrouver, si vous voulez, je pourrais. Moi, je vais avancer un petit peu si ça vous intéresse. Hein. On dit souvent que le père vient séparer la mère de son enfant, etc. Alors, il y a aussi Yannick Bonnet qui en parle dans ses... Alors, on a eu une journée ici aussi pour deux jours pour les lycéens, là, pour « Que faire de ma vie ?». Et alors, un des intervenants soulignait l'importance du père aussi dans les choix. Que il rapportait d'ailleurs une phrase de Yannick Bonnet qui disait que quand maman félicite son enfant, l'enfant traduit « maman m'aime ». Quand le père félicite son enfant, l'enfant traduit « alors ça c'est vrai ». Je trouvais que c'était intéressant. Et donc, il disait l'importance, parce que ça fait plusieurs centaines de jeunes qu'il oriente, l'importance de la confirmation de la part du père. Ce n'est pas du tout la même chose que ce soit la mère ou le père qui confirme. Et du coup, comme les enfants ont besoin vraiment que... si le père qui dit bah, « fais ce que tu veux », ça, c'est pas du tout... ça ne les aide pas vraiment. Ils ont besoin d'entendre une parole qui les confirme. Oui, si tu as bien discerné, fais comme ça. Jean Vanier, en parlant à des gens, donc il a plus 20 ans, Jean Vanier, une des premières choses qui est rapportée, c'est ce souvenir du moment où son père l'a confirmé. Dans le sens où Jean Vanier s'est engagé dans l'armée, au départ, dans la marine. Et alors, donc, il est allé voir son père, qui avait une responsabilité importante. Et son père lui a dit, tu as bien réfléchi, etc. Voilà. Et puis après, ben, si tu penses que c'est bien, vas-y. Et pour lui, c'était très important d'avoir ce vas-y de son père qui l'encourageait à aller dans la voie qu'il avait discernée. Son père n'a pas discerné à sa place. Mais la confirmer, bah, si tu as bien regardé, bah, vas-y, suis ta voix. Alors là, j'ai une citation, c'est un article sur la fonction du père de Yvon Dallaire, c'est un Canadien. Dallaire, D-A-2-L-A-I-R-E. Si vous tapez fonction du père Dallaire, je crois que vous trouvez, sinon vous me demandez. Alors, entre autres, ce qu'il dit, c'est que l'enfant a besoin de sentir toute l'attention de la mère pour découvrir sa puissance. Mais il a besoin aussi des interdits de son père pour connaître ses limites. Comme ça, c'est assez connu. C'est le père qui met un peu des limites à la toute-puissance de l'enfant. Et puis, les enfants qui n'ont pas de père se croient tout permis. Et puis, voilà. Et alors, il voit cinq secteurs où se manifeste la fonction paternelle. Premier secteur, la protection. Alors avant, l'homme des cavernes, bon, il protégeait sa progéniture des prédateurs de toutes sortes, mais ce n'est pas simplement une protection physique, c'est aussi une sécurité émotive, qu'on puisse compter sur lui, un homme sur qui on peut compter. Donc une protection. Deuxième secteur important du père, c'est l'éducation, qui doit faciliter à ses enfants l'apprentissage du contrôle de soi, de canaliser leur agressivité. Et je trouve que c'est intéressant, donc, comme il le dit, il doit apprendre à renoncer à la satisfaction immédiate de ses besoins et désirs. Il doit leur apprendre la patience. Il va surtout les aider à canaliser leur agressivité vers une expression positive et constructive de celle-ci. Il est évident que ce faisant, il apprend lui aussi à mieux gérer ses propres besoins et sa propre agressivité. Alors donc la protection, l'éducation, contrôle de soi, etc., de son agressivité. Troisième chose, l'initiation. Le père a aussi comme fonction d'humaniser l'enfant à la frustration et au manque afin de pouvoir l'intégrer dans le monde adulte et le monde social, comme cela se faisait dans les rituels initiatiques des tribus dites primitives. Le père initie l'enfant aux règles de la société, sinon aucune vie sociale n'est possible. Et donc s'il y a des difficultés sociales, bon, le manque de père y est certainement pour beaucoup. Quatrième domaine, la séparation. La fonction du père est de séparer l'enfant de la mère et la mère de l'enfant, et non pas de former une sainte trinité où chacun perd son identité. Ainsi, le père permet la survie et l'épanouissement de l'enfant. Ainsi, l'homme permet la survie et l'épanouissement de la femme qui existe dans la mère. Fait que sa femme n'est pas simplement une mère, mais aussi une femme. Et cinquième domaine, parle de la filiation. Peu importe le nom de famille donné à l'enfant, celui-ci a besoin de savoir qu'il a un père et qui est ce père. Il a aussi besoin de savoir qu'il s'inscrit dans une lignée qui possède une histoire. Juste une petite chose là que je lis. Par rapport au père, il y a absence et absence. La pire absence, ce n'est pas l'absence physique, c'est le désintérêt. Imaginons un cadre qui rentre tard de son travail. S'il est capable malgré tout pendant un quart d'heure de faire abstraction de ses préoccupations pour aller dire bonsoir à ses enfants, écouter ce qu'ils ont à dire, être disponible, il est présent. D'autant plus si dans la journée, la mère lui a dit « j'en parlerai à ton père ce soir ». Ce père-là est présent dans la tête de l'enfant et il sait qu'il peut compter sur lui. Alors, après les mères, les pères, sur la fécondité, c'est les numéros 178 à 180. Donc, il parle de la fécondité plus largement, mais aussi quelquefois de ce que cette démarche d'adoption. Adopter est l'acte d'amour consistant à faire cadeau d'une famille à qui n'en a pas. Ceux qui assument le défi d'adopter et qui accueillent une personne de manière inconditionnelle et gratuite deviennent des médiations de cet amour de Dieu qui dit « Même si les femmes oublient les fils de leurs entrailles, moi je ne t'oublierai pas. » Alors l'adoption n'est pas toujours très très simple. Bon, il y a toutes les démarches et puis ça ne se passe pas toujours bien. Hein. Mais c'est quelque chose de précieux. Toujours dans ce domaine de la fécondité, le pape a toujours ce souci que la famille ne se referme pas sur elle-même. Et justement, quelquefois que... alors, il peut y avoir un engagement politique, mais pas seulement politique, un engagement dans la société plus largement, que la famille ne soit pas un vase clos. Et notamment vis-à-vis des personnes pauvres, ça c'est plus dans les numéros 183 et 184. Un mariage qui expérimente la force de l'amour sait que cet amour est appelé à guérir les blessures des personnes abandonnées, à instaurer la culture de la rencontre, à lutter pour la justice. Dieu a confié à la famille le projet de rendre le monde domestique. Il y a un besoin partout d'une bonne dose d'esprit familial. Une citation encore du pape. Ainsi, les couples chrétiens peignent le gris de l'espace public, le remplissant de la couleur de la fraternité, de la sensibilité sociale, de la défense de ceux qui sont fragiles, de la foi lumineuse, de l'espérance active. Donc vous allez peindre le gris de l'espace public avec la couleur de la fraternité. Au numéro 185 et 186, le pape fait un lien avec l'Eucharistie. Alors, il est très attentif, hein, vous le savez, à l'accueil des pauvres, en disant comment on peut accueillir Jésus dans l'Eucharistie si on n'est pas sensible à la souffrance des familles pauvres et des pauvres en général. Voilà ce qu'il dit. Lorsque ceux qui communient refusent de s'engager pour les pauvres et les souffrants ou approuvent différentes formes de division, de mépris et d'injustice, l'Eucharistie est reçue de façon indigne. Se réfère au texte de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens où il parle de certains qui reçoivent le corps de Jésus de façon indigne. Et après, à partir du numéro 187, le pape parle de la famille élargie, pas seulement papa, maman et les enfants, mais donc être enfant, donc l'attitude vis-à-vis des générations avant nous, pas seulement nos propres parents, mais les personnes âgées. Alors, il a parlé à diverses reprises des personnes âgées, il aime beaucoup les personnes âgées. À Rome, il y a la journée de la bénédiction de la longue vie. Je ne sais pas si vous avez... Oui, c'est au mois de septembre, je crois. Et puis, mais il a reçu à diverses reprises il a fait des discours aux grands-parents. Il y a une fête des grands-parents aussi. Bon, je ne sais pas, vous savez quand c'est. Bon, il y a la fête des pères, des mères, mais bon. Et... Ah, c'est au mois de mars. Ah bon, alors je ne sais pas. Peut-être qu'en Italie, ce n'est pas exactement pareil qu'en France, d'ailleurs. Je ne sais pas. Donc, en tout cas, il insiste pour pas mettre de côté les grands-parents. Il rapporte un exemple, il a des exemples quelquefois qui sont un peu décapants. C'était dans une famille à Buenos Aires. Un jour, il y avait les trois générations à la maison, donc il y avait les grands-parents, les parents et les enfants. Et le grand-père, il ne mangeait pas très proprement, bon, avec l'âge, et voilà, donc il en mettait un peu partout, et puis voilà. Alors à un moment, le papa en a eu un peu marre, parce que ça faisait un peu désordre quand on invitait des gens et tout ça. Donc il a bricolé une table pour mettre à la cuisine, pour que le grand-père mange à la cuisine. Et puis voilà, il va travailler, et puis 2-3 jours après, il revient, il voit son fils qui est en train de bricoler. Il demande, qu'est-ce que tu fais? Ben, je te prépare une table pour te mettre à la cuisine quand tu seras vieux. Alors voilà, cette facilité peut-être quelquefois qu'on peut avoir de mettre de côté ce qui nous dérange parce que voilà, ça fait pas bien sous un point de vue mondain. Et là, il parle aussi, donc il y a les enfants, il parle des grands-parents, il parle aussi d'être frère, la relation entre frères. C'est précisément la famille qui a introduit la fraternité dans le monde. C'est le concept, mieux que le concept, la fraternité, c'est quelque chose de très important pour le pape François. Dès son élection, il en avait parlé. Et son premier message pour la paix, a pour titre « La fraternité, fondement et route pour la paix ». On sait que le pape aime beaucoup les rencontres, etc. Mais quand dans ce document, il voit que c'est la fraternité, de fait, elle n'est pas forcément très simple. On voit dès les premières pages de la Bible avec Cain et Abel. Ça se termine mal. Donc voilà. Et du coup, Jésus offre sa vie aussi pour renouveler ces liens de fraternité aussi. La fraternité humaine est régénérée en et par Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. La croix est le lieu définitif de fondation de la fraternité que les hommes ne sont pas en mesure de générer tout seuls. Et après, il parle de la famille élargie. Avec le beau-père, la belle-mère, etc. Voilà, moi je vais m'arrêter là, il est 3 heures. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc j'ai terminé le chapitre 5, c'était un peu rapide, mais vous